VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Viron, il est 11h à Bamako, Mali, midi à Kinshasa, RDC. Bonjour à tous. La communauté internationale reste divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne et siège du gouvernement d'Union GNA, ciblé mardi soir par des tirs de roquettes qui ont fait au moins 3 morts. Soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli ne fait toujours pas l'unanimité selon des diplomates de l'ONU. Depuis le début, le 4 avril, de son offensive, l'armée nationale libyenne, ANL, du maréchal Khalifa Haftar, piétine au sud de la capitale, même si elle proclame quotidiennement des percées. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 174 morts et 18 000 déplacés, selon l'ONU. En Égypte, le Parlement a approuvé hier un amendement de la Constitution permettant au président Abdel Fattah al-Sissi, élu en 2014, de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Nathalie Bache.
Le texte a été approuvé par une majorité des 596 députés. Le nouvel article 140 permet ainsi de faire passer le deuxième mandat de M. Sissi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Le chef de l'État égyptien pourrait en outre se représenter en 2024 à un troisième mandat de 6 ans. Ce vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours. La campagne a déjà commencé avec plusieurs banderoles déployées dans les rues du Caire. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle doit aussi accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée. Abdel Fattah el-Sissi a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi, dont il était le ministre de la Défense. Sa réélection en 2018 a eu lieu dans le cadre d'un scrutin marqué par une série d'arrestations. Monsieur Sissi, 64 ans, est accusé par les ONG de graves violations des droits humains, dont la torture, des disparitions forcées, exécutions capitales, emprisonnement d'opposants et musellement de la presse.
Le président soudanais déchu, Omar el-Béchir, a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi dans une prison de Khartoum, a indiqué aujourd'hui donc à l'AFP un proche de l'ancien chef de l'État renversé par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue. M. Béchir a été transféré dans la prison de Kober à Khartoum, a indiqué ce membre de la famille s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier soir dans une allocution radio-télévisée l'ouverture d'une concertation nationale le 23 au 28 avril avec des forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis à référendum. Cette révision, la première en 27 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg du nord du pays. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a lancé hier un avertissement sans précédent aux élus qui, selon lui, manipulent les groupes armés. Il les a menacés de poursuites pour complicité d'assassinat. Eddy Sango.
Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé hier à Beni, dans le Nord Kivu. J'ai averti tous les acteurs qui manipulent les groupes armés. La loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur, a-t-il déclaré dans une mise en garde. Tous ceux qu'on arrêtera, qu'ils soient députés national ou provincial, pas question d'immunité. Il sera traduit devant la justice et il sera condamné pour complicité d'assassinat, a poursuivi le président congolais. Aux combattants des groupes armés, il a demandé de déposer les armes car il n'y a plus de raison de faire la guerre, a-t-il dit. La veille à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, il a réuni un conseil de sécurité à Lubumbashi le week-end dernier. Il avait constaté un déficit criant d'encadrement des hommes de l'armée et de la police. Il s'agit de sa première tournée dans l'intérieur du pays depuis son investiture le 24 janvier. M. Tshisekedi n'a toujours pas formé de gouvernement et travaille soit avec des ministres de l'ancienne équipe du président Kabila, soit avec des intérimaires. Il n'a pas non plus procédé à des réformes majeures au sein de l'appareil sécuritaire à par un changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Billon, nous émettons en direct de Washington. Mobilisation générale en faveur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président français Emmanuel Macron a souhaité hier que sa reconstruction soit achevée d'ici à 5 ans. 800 millions d'euros ont déjà été mobilisés. L'origine accidentelle est privilégiée par les enquêteurs en ce qui concerne le violent incendie qui a détruit en partie lundi la cathédrale Notre-Dame de Paris. La charpente a été détruite, la toiture sinistrée et la flèche emblématique s'est effondrée. Le montant de sa restauration est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et pourrait durer 10 à 20 ans. Claire Morin-Gibou a joint l'architecte parisien Louis Picot qui était sur les lieux de l'incendie.
En fait, moi j'habite dans la Goutte d'Or dans le 18e, donc j'ai une fenêtre qui donne sur Paris un peu en hauteur et j'ai vu la fumée en fait blanche très importante dans Paris et donc j'ai tout de suite pensé à un attentat en fait. Quand j'ai appris que la cathédrale était en feu, je recevais une amie qui est historienne d'architecture et d'art et elle me dit qu'elle est très étonnée parce que une semaine avant ont été déposées plusieurs sculptures d'anges ou d'archanges qui étaient entre autres positionnées sur la flèche de la cathédrale. Elles ont été déposées pour des histoires de rénovation en fait. Et alors on en parlait tous les deux et on se disait que c'est comme si on avait touché à une protection qui n'était plus là et que le feu était arrivé. Et comme on est dans un lieu touche au sacré et à l'énergie, on s'est posé des questions en fait sur ce hasard, cette chronologie.
Apparemment, ce que les experts disent, les travaux de rénovation sont toujours potentiellement plus dangereux en matière d'incendie.
Ça dépend complètement de la nature des travaux de rénovation parce qu'en fait, pour déclencher un incendie, il faudrait du gaz, de l'électricité, ou des artisans qui travaillent avec des chalumeaux ou des choses comme ça. S'il y avait un câblage électrique provisoire, alors oui, par exemple, qui passait dans la charpente, je ne sais pas comment s'est déclenché l'incendie.
Et en tant qu'architecte, avez-vous tout de suite mesuré l'importance que les dégâts allaient avoir ?
Oui, j'ai pensé à ça parce qu'une charpente en chêne très ancienne qui prend feu de cette façon-là, le chêne est un bois extrêmement dur et qui brûle très bien quand il est chaud et qu'il est en train de brûler, donc c'est difficile à éteindre.
Êtes-vous touché par l'émotion internationale générée par ce gigantesque incendie ?
Oui, moi je trouve ça intéressant parce que finalement les gens se retrouvent reliés. Maintenant, pour moi c'est une évolution, c'est une transformation. La destruction, ça fait partie de la vie aussi. Et tout cet émotionnel humain qui est largement amplifié par les médias, je prends de la distance. Je suis assez peu touché, en fait, par la destruction d'un bâtiment ou d'un monument parce que, pour moi, ça génère de la transformation et une situation différente, nouvelle. Et j'y vois pas la fin de quelque chose ou la mort de quelque chose, mais plutôt une transformation.
L'architecte parisien Louis Picot, témoin de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'Union européenne menace les États-Unis de représailles si le président Donald Trump décide de sanctionner les investissements européens à Cuba, indique une lettre adressée au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La date d'aujourd'hui pour annoncer ces nouvelles mesures n'a pas été choisie au hasard. Il s'agira de l'anniversaire de l'attaque de la baie des Cochons en 1961, une tentative d'invasion américaine qui s'était soldé par une défaite cinglante. Des tempêtes ont tué au moins 35 personnes dans l'ouest de l'Inde et causé d'importants dégâts, ont annoncé aujourd'hui les autorités locales. Des vents violents et des pluies soudaines se sont aussi abattus sur la capitale New Delhi, faisant baisser les températures estivales de près de 10 degrés. Ces orages ont forcé l'annulation de plusieurs rassemblements politiques, alors que l'Inde tient actuellement ses élections législatives, dont la deuxième phase de vote sur 7 se déroulera jeudi. Et puis, les Indonésiens ont commencé à voter ce matin pour l'élection présidentielle qui oppose le leader sortant Joko Widodo et à l'ex-général Prabowo Subianto pour prendre la tête du pays comptant la plus importante population musulmane du monde. Les derniers sondages avant le scrutin donnaient l'avantage à Joko Widodo, le président sortant de 57 ans, avec une dizaine de points de pourcentage d'avance face à son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto, âgé lui de 67 ans. Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump a mis mardi son veto à la résolution du Congrès américain qui l'exhortait à arrêter tout soutien américain à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen, s'opposant pour la deuxième fois en deux mois à une décision du Parlement américain. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Harry Sansou.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.